C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le groupe Juste pour rire qui se met à l'abri des créanciers, on a appris ça hier, donc pas de festival d'humour, enfin, festival Juste pour rire cet été dans la métropole. Justement, quels seront les impacts de cette situation financière? Nathalie.
Bien, Montréal, Paul, en subira les conséquences, c'est évident, c'est très malheureux, puis c'est une triste nouvelle. Moi, là, je ne m'attendais pas à ça, bien honnêtement. Le Devoir avait publié un article en décembre dans lequel on apprenait que le groupe vivait certaines ou de sérieuses difficultés, oui, c'est exactement l'expression utilisée, mais jamais on aurait cru que le groupe Juste pour rire allait se placer sous la protection à l'abri de ses créanciers. Alors, Juste pour rire, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est un géant, une institution dans le monde culturel québécois, c'est un fleuron québécois, et surtout un moteur économique pour Montréal. L'an passé, le festival, dans sa version anglaise et française, a généré des retombées économiques de 33 millions de dollars, 1,3 million de visiteurs, 120 000 spectateurs en salle. Imaginez l'impact pour Montréal. C'est les hôtels, c'est les restos. C'est extraordinaire, là, la dynamique que ça crée dans une ville. Il faut dire que, Juste pour rire, qui a été créé en 1983, a beaucoup, beaucoup contribué à forger la réputation de la ville de Montréal à l'international comme étant une ville festive. Alors, cette réputation qui est là, elle est beaucoup associée à Juste pour rire. Et je ne sais pas si le groupe Juste pour rire arrivera à se restructurer, arrivera à trouver peut-être de nouveaux investisseurs. Mais si il n'arrivait pas à atteindre leur objectif, ce serait bien dommage parce que c'est 40 ans d'histoire qui risquent de partir en fumée. Alors, c'est vraiment une triste nouvelle.
Moi, je trouve ça triste pour une raison urbaine. Il y a une méchante différence et les gens ne la font pas. Nous l'entendons pour la première fois à ce micro, une méchante différence entre un festival sur la place des festivals et un festival sur l'île Sainte-Hélène. Parce que sur l'île Sainte-Hélène, tu contrôles les concessions alimentaires, puis c'est fermé, personne ne peut passer sans payer. Il n'y a rien de gratuit. Fait imagine-toi, le groupe Evenco, il est dans les deux, lui. Ben, c'est pareil sur l'esplanade du Stade olympique. Là. C'est fermé, tu contrôles tout. En ville, c'est ouvert, tu contrôles rien, et c'est ce qui donne le charme. C'est-à-dire que tu peux faire un festival sur une île dans n'importe quelle ville violente des États-Unis. N'importe quelle ville violente. Tu prends une île, tu mets une clôture autour, puis tu dis aux gens, ça vous coûte 265$ pour 3 jours, puis venez. Puis d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Des fois, sur des terrains de fermiers, etc., on se rappelle du grand festival... pas Wildwood, l'autre Woodstock. Mais c'est ça, tu prends une ferme, tu mets une barrière autour, venez-vous-en. Bon, ça, c'est un festival américain privé. Un festival dans une ville, tu fermes les rues puis tout le monde peut venir. Oh, là, ça, c'est très rare. Et ça, c'est la signature de Montréal. C'est la cape pas de violence, la déambulation, la participation, le côté familial. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Alors, pour moi, donc, pour ça, ça me fait de la peine. Maintenant, pour la même raison, on comprend pourquoi ils ferment. T'es Evenco, toi, puis t'as un festival où tu contrôles tout. Les concessions, ça te rapporte 20%, 25% de ton chiffre d'affaires. La bière est à 8$. Puis y a un billet d'entrée. Puis là, t'en gères un autre qui ne te ramène pas une scène. Parce que les gens, ils passent, ils peuvent aller chercher une bière à la brasserie du coin, etc. Fait que là, les autres, ils ont dit, de la merde, on est écœurés du volet public du festival. Parce que le volet public du festival, des festivals francophonie, jazz, festival d'humour, c'est quoi la recette? C'est de dire, on fait un festival public qui va attirer des millions de personnes et qui va nous donner une image extraordinaire pour laquelle, après ça, on va vendre des billets privés dans des salles. Le côté public leur coûte de plus en plus cher. Il paraît qu'il y a une inflation jusqu'à 30-40%. Ils disent, puis ça leur rapporte moins, puis les concessions leur rapportent moins. Ils disent, de la merde, on va le domper. On dompe le côté public. Après ça, je vais te dire ce qui va se faire. On va se rasseoir avec la ville, puis on va vous en organiser un petit, un public, il va coûter plus cher. Puis là, on va avoir une partie qui va être privée dans le public avec des clôtures autour. Les gens vont payer, c'est ça qu'ils vont faire.
Moi, je vais dire ça autrement. Mais pas loin, mais autrement.
Vas-y.
Le festival, c'est pas payant.
C'est ça.
Et ça n'a jamais été payant. Le festival, c'est la machine à alimenter le groupe Juste pour rire. Et ça permet d'aller chercher des revenus. Tu fais payer par le festival des trucs qui te profitent. Et ça, c'est vrai pour tous les festivals. Je ne parle pas que bon. Et alors, quand le groupe Juste pour rire produisait des émissions de télé, des captations de spectacles, puis vendait ça à travers le monde, vendait ça à TVA, à une époque où, disons, les revenus étaient importants, il ne faisait pas d'argent avec le festival. C'était un organisme à but non lucratif. Mais le groupe Juste pour rire. Puis là, la grande question, elle est où la frontière entre les deux? Et là, ce qui arrive, c'est que tu es dans un environnement où les droits de télé sont moins intéressants, les licences sont moins payantes. C'est là que ça fait mal. Et c'est peut-être plus... Je parlais avec Normand Brathwaite ce matin, puis Laurent Paquin. C'est peut-être la formule qui attire moins, parce qu'on découvrait avant des humoristes dans un festival. Maintenant, ils sont découverts sur des plateformes. Fait que l'environnement a changé quand même.
C'est ça, absolument. Parce que, tu viens de le dire, là, la découverte d'un humoriste, il va se mettre sur TikTok, il va se mettre sur les médias sociaux. Ça, c'est l'aspect découverte. Puis après ça, il va lui-même gérer son affaire en scène. Hey, d'ailleurs, il va l'autoproduire, pas de problème. Tu sais, tu te loues une salle, un éclairagiste, etc. Parce que on n'est pas dans le théâtre, là. On n'est pas avec des gros décors, camions, machin, là. Fait que là, toutes les ceux qui ont été abandonnés par le festival Juste pour rire, tout annoncé, pas de problème, on va continuer sans eux. Pas de problème.
Mais il faut. Ouais, ouais. Vas-y, ben non, poursuis, Luc, j'ai pour dire, mais il faut pas minimiser l'impact qu'a eu le départ de Gilbert Ozon. Devant, avec ses démêlés devant la justice, l'entreprise a été vendue. Et là, il y a un choc de culture à l'intérieur de l'entreprise. Les Américains possèdent 49 % des actions. Bell Media, Groupe CH en possède 51 %. Ils ont structuré ça de façon telle que, compte tenu que l'actionnariat majoritaire est canadien, ils peuvent continuer de bénéficier d'un certain nombre de subventions des gouvernements. Tu parlais du festival qui n'est pas payant. Écoute, le ministère du Tourisme donne au Festival Juste pour rire une subvention de 1 824 000 $ par année. Là, ça date de l'année passée. Lorsque j'étais au tourisme en 2003, la subvention était d'un million. Mmh. Fait qu'en quelques années...
Plus celle de la ville, là, Nathalie. Puis une autre affaire qui n'est pas calculée, c'est la place des festivals, qui a coûté 260 millions la dernière fois que j'ai regardé, puis ça continue d'augmenter. Fait que ça c'est gratuit, ça. En plus des subventions, là, qui sont à peu près 18 % de leur coût. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils disent, Nathalie? Ils disent, tout ce qui est pas payant, comme le disait Paul, on le met dans la partie festival. Tout ce qui est payant, on le sort. Il y avait même des schemes pour des plus petits festivals. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il avait une compagnie de production à côté du festival. Là, le festival recevait une subvention et tous les contrats allaient à la compagnie de production. Comme tu vas me monter une scène là, tu vas me monter un décor là, après ça, tu vas faire une vidéo là. Et ça rapportait beaucoup. Fait que le festival était toujours déficitaire puis la compagnie de production était toujours profitable.
Ben, ils sont pas dans le business de la charité, là, on s'entend.
Non,
là.
C'est ça.
Ils ont un modèle d'affaires qui leur permet de maximiser l'aide gouvernementale qu'ils peuvent recevoir. Parce que il y a un auditeur qui écrivait hier, il dit, mon Dieu, est-ce que le groupe Juste pour rire, c'est un OBNL? Non, le groupe Juste pour rire, c'est une société par action. Mais le festival, lui, c'est un OBNL. La différence est importante. Maintenant, on verra si le groupe va réussir à se restructurer. L'objectif étant d'organiser un autre festival en 2025. Mais tu as raison, Luc, attendez-vous à ce que le groupe cogne aux portes
voilà.
Du ministère du
Maintenant,
Tourisme.
Maintenant, ils vont être du bon côté. Ils vont dire, ah, là, si tu veux qu'on les réouvre, là,
ben, voilà. Eh ben, sort le chéquier, là, les amis, c'est.
Mais
en même temps...
Tu disais tantôt les faits Ozon. Moi, j'oublie là, tout le volet là, des procès puis des agressions présumées puis alléguées. Puis tout ça. Mettons, tu tasses ça, là. Faut reconnaître que c'était un méchant promoteur, là.
Et
pour aller soutirer des subventions, chercher des contrats de télé... amener les pouvoirs publics à pas mal faire ce qu'il avait envie de faire. Puis c'est un gars créatif.
Mais regarde, c'est lui, Coderre avait confié le 375e à Roson. Okay? Avant qu'il confie à Roson, là, ça allait nulle part. À un moment donné, il l'a confié à Roson. Là, Roson, il se promenait à ses étages. Hey, viens, c'est un peu, j'ai affaire à toi, c'est tout là. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire dans ton arrondissement pour le 375e, maudit lâche? Non, il parlait pas comme ça, mais en bout de ligne, t'avais affaire à faire de quoi, par exemple. Mais ça marchait. Il faisait avancer les choses, là, nettement.
Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on déplorait des employés après que l'entreprise était vendue. Là, mais l'entreprise, maintenant, Groupe Juste pour rire, est axée sur les profits, alors que le groupe avant était beaucoup, beaucoup axé sur la créativité.
Je te dirais qu'il était axé sur les profits et tout.
La créativité, les amis, qui a permis à ce groupe-là de se développer pendant 40 ans.
Oui. On fait une pause. On va passer le balai dans les rues pendant ce temps-là, puis on vient pour parler de la propreté en ville.
La commission Normando-Ferrandaise.
Un printemps hâtif égale saleté hâtive. C'est exactement ce qui se passe dans les rues de Montréal. Et là, on est un peu pris de court à la ville parce que l'équipement n'est pas ajusté. Les appareils, les balais mécaniques vont finir par arriver peut-être la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut rêver? Soyons à l'étape du rêve ce matin, que Montréal devienne belle et propre. Luc.
Non.
Bon, il tue le rêve en partant, c'est bon.
Sauf que je dois féliciter l'école bleue du plateau. J'ai pas fait tous les quartiers, là, mais Plateau Mont-Royal, bravo les gars.
Et les filles.
Et les filles, oui. Merci, Paul. Tu me sors une épine du pied. Donc, bravo. Je me promenais en vélo un peu partout. Puis, franchement, c'est propre. Et puis, c'est surprenant que ça soit propre parce que les opérations de ramassage de la neige ramassent beaucoup de déchets. Après une opération de ramassage de la neige. Bon, ça crée du déchet aussi parce qu'il y en a qui sortent leur sac pas le bonjour. La chenillette va le ramasser, va le percer. Souvent, ils vont les tasser. Il y a quelqu'un qui va tasser les sacs. Mais en tout cas, les opérations de neige ramassent des déchets. Bon. Est-ce que ça va être propre un jour, propre, comme chez propre? Non. Pourquoi? Parce que l'architecture. Il y a... Quand tu vas dans une ville comme Barcelone ou Paris, tu dis « Ah, c'est propre ici. » Ben oui, pourquoi c'est propre? Parce qu'eux, ils ont des immeubles de 6 étages avec un local à ordures. Puis les gens jettent leurs choses dans le local à ordures, puis après ça, ils mènent les poubelles dans la rue le jour des poubelles, puis là, c'est ramassé par les vidanges. Il n'y a personne qui prend son sac puis qui le tire du 3e étage sur le trottoir. Ça marche pas de même. C'est pas la même architecture. À New York, où ils ont la même architecture que nous dans pas mal de quartiers, ils viennent de prendre la décision de ne plus permettre le sac de plastique, le sac de poubelles. Ça va être des poubelles en plastique partout. Et ce que ça va faire, parce qu'ils l'ont déjà fait dans certains quartiers, comme dans Brooklyn, par exemple, c'est que les avants de maison, c'est pas des petits jardins là-bas, là. C'est des vidanges. C'est toutes des bacs de... Tu t'en vas dans Brooklyn en haut, là, de l'ancienne partie polonaise. Là. Tout le monde sur son devant de maison, il y a 4 bacs, un bac de recyclage, un bac de compostage, 2 bacs de poubelle, puis ils jettent leur poubelle là-dedans. Et c'est vraiment pas beau. À Chicago, c'est la même architecture aussi que Montréal, et avec les mêmes genres de quartiers, avec des ruelles. Et là... Eux autres, c'est en arrière. Fait que leurs ruelles sont lettes à mort, ben sont propres, par exemple. C'est quoi? C'est 2 choses. C'est des garages puis des poubelles. Alors, une ville comme Montréal, où t'as 3 étages partout et où il y a beaucoup d'appartements trop petits pour garder les poubelles en dedans, c'est sûr que les gens vont les jeter au mauvais jour. Et d'ailleurs, dans certains cas, et aussi toutes les fois où ils partent en vacances, et ça arrive, bon, toutes les fins de semaine, par exemple. Tu pars au chalet le vendredi. Les poubelles passent le mardi. T'as un 3,5, un 4,5. Vas-tu laisser ton sac de vidange en dedans? Non. Et ça, c'est la maudite philosophie du développement durable. Ça, là, les gens de développement durable, là, moi, je les mettrais tous dans un autobus pour faire un beau tour de Montréal. Puis ils croient. Les élus, ils croient ça au développement durable. Il y a quelque chose de vrai dans le développement durable. C'est si tu jettes, plus tu jettes de vidange, plus les dépotoirs se remplissent. Puis plus les dépotoirs se remplissent, plus il va falloir être loin pour faire des dépotoirs. Puis c'est des territoires épouvantables. Puis on le voit quand il y a d'agrandissement de dépotoirs. La population autour était que passage des camions, odeurs, goélands, etc. Mais cette idée-là que si tu ramasses moins souvent les vidanges, il va en avoir moins, parce que c'est ça l'idée du développement durable. Puis là, en ce moment, on s'en va vers 2 semaines de ramassage. C'est bon dans les quartiers de bungalow, parce que tu as une cour en arrière, puis tu peux laisser ta poubelle en arrière. C'est bon dans les quartiers de tours, parce que tu as un local ordure. Mais le Montréal traditionnel, avec des 3,5, 4,5, c'est pas vrai que la gang d'étudiants qui se partagent un 4,5 vont garder les sacs de vidanges chez eux pendant 2 semaines. Ce n'est pas vrai.
Nathalie.
On a déjà parlé de ça, d'ailleurs. Luc, toi, tu as rêvé de tes sens uniques sur le plateau. Moi, j'ai envie de te dire ce matin, rêvons toute la gang ensemble d'avoir une ville, d'avoir Montréal, d'imaginer Montréal une ville propre. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce qu'un jour Montréal a déjà été propre? Parce que c'est un sujet...
Dans le temps de Jean Drapeau, madame.
Oui, bon, tu vois, alors, j'ai ma réponse. Parce que c'est un sujet récurrent dans les conversations. Là, ça nourrit énormément de frustration. Moi, je pense que ce qui manque à Montréal, ce qu'on devrait arriver à développer à Montréal, c'est une culture de la salubrité. Parce qu'il y a énormément d'avantages à avoir une ville propre. Là. Premièrement, tu développes un plus grand sentiment d'appartenance à ta ville. C'est un lieu où il y a une qualité de vie qui est plus intéressante. Tu deviens fier de ta ville. Puis ça rend de bonne humeur à avoir une ville propre. Là. Tu sais, ça rend vraiment... Ça nous donne du pep dans le crayon. Alors, quand je parle de culture de la salubrité, pourquoi pas se donner, par exemple, je sais pas, là je rêve les yeux grands ouverts, les amis. Là, 10 ans, par exemple, pour développer cette culture de la salubrité. Et il y a des endroits sur la planète qui pourraient nous inspirer. Il y a des endroits, tu parlais de certains, tu parlais de Chicago, tu parlais de Barcelone, mais il y a Japon.
Singapour.
Oui, puis le Japon,
tu jettes une gomme à terre, ça remonte en dedans, là, ça prend pas 2 minutes. Là.
Exactement, mais c'est sûr que c'est un exemple extrême. Écoutez, au Japon, au primaire, au secondaire, tous les élèves, ça fait partie là, de leur rituel quotidien, de leur routine quotidienne, sont tous mis à contribution pour faire le ménage de non seulement de leur classe, mais de leur école. Là. Vraiment, les classes sont divisées en 5 lignes et tous les jeunes sont mis à contribution. Il n'y a pas de poubelle dans les rues, il n'y a pas d'agent d'entretien. La population garde les espaces communs. Ce qui me fascine au Québec, ce dont on parle pour Montréal, ça vaut pour toutes les villes et municipalités du Québec, c'est que la responsabilité de la propreté et de l'entretien de nos quartiers, elle repose sur l'administration en place. Alors, c'est comme si nous, les citoyens, on se déchargeait de toute responsabilité, mais je pense qu'il faut développer ce sentiment, ce sentiment du devoir. Écoute, tu vois une canne vide à terre, son réflexe, c'est quoi? C'est de passer à côté ou encore de frapper dessus avec à coup de pied, là. Je veux dire, non, mais le réflexe, ça devrait être de la mettre dans la poubelle. Et là, en faisant mes recherches hier, j'ai découvert, puis c'est intéressant parce que pas plus tard que le 27 février dernier, l'arrondissement Anjou a publié sur son site une initiative d'une citoyenne qui s'appelle Annie Béliveau. Je la salue si elle est à l'écoute. Elle a décidé un jour à se promener, à prendre sa marche, puis les poubelles publiques dans l'arrondissement étaient pleines à craquer. Écoute, il y a du monde qui vont porter leur vidange domestique dans les poubelles publiques. Voyons, on le gagne, ça n'a pas de bon sens. Alors, elle se met à faire le ménage à poubelle, elle arrive avec un sac, les employés de la ville arrivent au même moment. Histoire courte, là, elle a lancé un grand appel, un appel à tous pour que les gens de l'arrondissement puissent faire comme elle, puis se mettre à faire le ménage des endroits qu'ils fréquentent. Alors, développer une culture de la salubrité.
Bon, on va faire ça comment, Nathalie? Parce qu'on en parle depuis 40 ans. Puis c'est vrai que moi, je suis bien jaloux des Japonais puis les enfants qui nettoient la cour puis qui se servent des repas. T'sais, on leur sert un plat principal à la cuisine. Puis après ça, eux, il y a un enfant qui est affecté à passer la soupe. Puis un autre pour... Mais tu sais, oui, cette culture-là, on fait ça comment, là?
Mais là, mais premièrement, c'est enseigner peut-être aux gens à se ramasser, un. Puis deuxièmement, tu marches sur le trottoir, tu vois des choses qui traînent à terre, ben peux-tu avoir le réflexe de les ramasser?
Non, là, Nathalie, je vais te dire pourquoi. Selon moi, après avoir analysé avec des longues vues de mon salon pendant des années... ou des fois caché en arbuste dans un parc. Parce que les gens, ils font s'il y a un déchet. S'il y en a 1000, ils le font pas. Et s'il y en a 1000 qui reviennent à toutes les semaines, ils le font encore moins. Et même l'école bleue, quand ils ramassent des poubelles, puis qu'ils ramasseront pas, par exemple, tu vas en tirer le sac de vidange d'une poubelle, puis ils ramasseront pas ce qu'ils ont autour. Le lâche! Mais... quand tu leur parles, tu dis oui, mais c'est parce que moi, j'en ramasse 3 fois par jour. Puis quand je ramasse ce qu'il y a autour, 3 heures après, il y en a autant. Fait que je t'écœurerai.
Je comprends. Ensemble Montréal, qui est le parti d'opposition à l'hôtel de ville, suggère à Projet Montréal, à la mairesse Plante, de développer des escouades propreté dans la ville. On pourrait commencer en quelque part, Luc. Moi, je me souviens, quand j'étais au primaire, le Manon faisait le ménage au printemps de l'école, de la cour extérieure.
Moi, j'ai fait ça beaucoup, Nathalie. J'ai fait ça beaucoup. Escouades. On faisait des campagnes de communication. On se ramassait à 40.
Ben, Mont-Royal, il y a des opérations une fois ou deux par année, là, de ramasser des
cochons. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faudrait axer davantage là-dessus. Moi, je vous partage ça comme un grand rêve ce matin.
Correct.
Écoute, t'as rêvé de tes sens uniques, là, on t'a tapé dessus, pourtant tu y es arrivé.
Oui, mais pour la propreté aussi, on en a rêvé. Et ce que j'ai dit tantôt, de mettre les poubelles dans des bacs, on l'a fait, puis ça a vraiment bien marché. Là, parce qu'il y a un lieu qui est jugé comme un endroit où la marée va ramasser les vidanges sans que personne s'en occupe, c'est les coins de ruelle. Quelqu'un se dit, ah, ben là, la mer va passer, puis ça va disparaître, je peux jeter n'importe quoi sur un coin de ruelle. Et nous, on avait mis des bacs à ces endroits-là, ça a très bien marché, sauf qu'on s'est fait voler les bacs. Mais j'aimerais vous dire... c'est pour ça que des fois, je suis un peu découragé. Attends, mais j'aimerais vous dire quelque chose sur la propreté, une dernière affaire, pour ne pas couper toute l'émission là-dessus, mais quand même, il y a un effet de seuil, OK? Il y a un effet de seuil. Je vais te décrire toutes les opérations qu'il y a dans l'opération du printemps, puis c'est à la fin, à la dernière opération, que tu dis, oh, wow, la ville est belle. Mais attends, écoute ça. D'abord, t'as une nid de poule. Après ça, t'as les déchets cumulés de l'hiver, les gros morceaux, les gens qui ont jeté leurs matelas, etc. Après, t'as le bris des équipements municipaux, les gars qui ont ramassé des bancs puis des poubelles avec les chenillettes. Après, c'est de la réinstallation des poubelles. Après, t'as le nettoyage des trottoirs et des rues, la garnotte, au pistolet à eau, là, avec un tracteur. Puis souvent, on prend des privés pour faire ça. Après, t'as les plantations, le nettoyage des parcs, nettoyage des graffitis, installation des bancs publics, peinture des pistes cyclables, fleurs, arboriculture, réouverture des équipements municipaux, jeux d'eau et piscine. Boum! Rendu là, c'est beau.
On est rendu fait avant. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.